c'était YMCK de Bad Bad Not Good sur Radio Campus Lille. Nous revoici pour la dernière partie de l'émission Quoi de Neuf sur Radio Campus. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, nous accueillons des professionnels du milieu de la culture, ainsi que des étudiants de Lille 3, autour d'une problématique commune, la médiation culturelle. Sans plus attendre, nous recevons notre dernière invitée, Hélène Priego. Bonjour Hélène.
Bonsoir.
Qui est la directrice et médiatrice du musée de la Résistance de Bondu, ainsi que Colline et Manon, étudiantes à Lille 3.
Bonjour Hélène.
Bonsoir.
Nous allons aujourd'hui nous intéresser au travail de mémoire et de transmission de mémoire au sein du musée de Bondu. Le musée de la Résistance de Bondu a été construit dans l'enceinte du fort de Bondu, qui a une histoire particulière. Pouvez-vous nous rappeler cette histoire ?
Oui, alors c'est un fort qui date de la fin du 19e siècle, qui fait partie de ce qu'on appelle la ceinture de défense de Lille, qui est composée en fait de 7 forts au total et de quelques ouvrages intermédiaires qui ont été construits pour empêcher potentiellement une invasion de Lille et de sa région. Donc comme vous vous en doutez, ça a moyennement marché. Ces fortifications, en fait, elles sont construites juste avant la découverte de nouveaux explosifs, de nouveaux types d'obus. Et donc très vite, elles deviennent complètement obsolètes. Donc en 1914, comme ensuite en 1940, en réalité, le fort de Bondu va être occupé par les forces allemandes contre lesquelles il avait été construit. Donc c'est un fort qui va, pendant la Première Guerre mondiale, servir simplement de casernement, je dirais, pour les forces allemandes. Et puis malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un lieu qui va avoir une histoire un peu plus tragique. Il va être à la fois un lieu de stockage de munitions pour les avions allemands stationnés sur l'aérodrome juste à côté, qui vont notamment bombarder Londres et le sud de l'Angleterre. Et puis à partir de 1943, ça va devenir aussi un lieu d'exécution pour les résistants arrêtés dans la région. Donc on va avoir 68 exécutions qui vont se dérouler en fait dans ces lieux.
Le lieu où a été construit le musée a donc un sens fort pour la mémoire de la Résistance. Est-ce que le musée de la Résistance peut-il être aussi considéré comme un mémorial ?
Oui, c'est vrai qu'on a un statut qui est un peu mixte, un peu double. C'est à la fois un mémorial, un lieu de mémoire, et aussi un musée, c'est-à-dire plutôt un lieu où on explicite l'histoire et où on souhaite vraiment décortiquer les événements qui se sont passés dans la région. Ça s'est fait un peu en deux temps. En fait, en 1986, après des années de travaux, on a souhaité d'abord mettre en avant le côté mémorial, justement. Donc le premier espace à avoir été réhabilité à Bondu, c'est la cour, ce qu'on appelle aujourd'hui la cour sacrée, où se déroulaient les exécutions. Et ça a donné l'idée, justement, aux acteurs de cette réhabilitation, c'est-à-dire la commune et une association qui s'appelle les Souvenirs de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondu. Ça leur a donné l'idée de créer donc un musée pour vraiment mettre en avant les spécificités aussi de la résistance régionale, plus particulièrement.
Donc on voit bien que ce travail de mémoire est très important. Et en fait, pour l'historien Pierre Nora, cet historien parle, pour lui, le travail de mémoire se perd en fait. Et il dit que la mémoire n'est plus habitée par les corps et les esprits et qu'on a besoin de lieux concrets, d'appui pour vraiment porter cette mémoire, comme les archives par exemple et les musées. Et l'histoire est intellectuelle selon lui, alors que la mémoire est un vécu. Pour nous, justement, cette réflexion sur le travail de mémoire est particulièrement importante aujourd'hui, car la dernière génération qui a un lien direct avec la guerre est celle de nos grands-parents. Donc la question de transmission de mémoire est particulièrement importante aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?
Oui, vous l'avez souligné, hein, ce qui est vraiment très, très important à comprendre, c'est qu'on est en train de vivre malheureusement les dernières années des acteurs de cette période. C'est ce qu'on a déjà connu pour le premier conflit mondial, avec la disparition des derniers poilus, par exemple. Et c'est le cas aujourd'hui pour les résistants, pour les déportés. Les toutes dernières générations, là, ont la chance d'écouter les témoignages de ces gens-là directement, et donc d'avoir un aperçu très concret de ce que c'était que cette période, de ce que c'était que l'histoire, avec une approche émotionnelle aussi directe qui va tendre sans doute en partie à disparaître. Hein. On l'a dit, l'histoire c'est plutôt quelque chose d'intellectuel, donc on risque de perdre ce côté un petit peu émotionnel et ce côté très concret. Les toutes jeunes générations qui viennent nous voir actuellement, nos plus jeunes visiteurs, nous, ce sont des CM1, CM2, ce sont des enfants qui n'ont pas connu du tout de gens qui ont vécu cette période. Leurs grands-parents n'ont pas du tout connu cette période, ils sont nés après. Donc c'est pour eux, il y a une déréalisation en fait de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'ils connaissent à travers les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'ils connaissent à travers les films et également à travers leurs cours d'histoire, donc dans les livres d'histoire. Donc c'est un peu un enjeu effectivement de leur montrer que c'est quelque chose qui a existé et avec des problématiques, avec des enjeux à l'époque qui sont encore d'actualité aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, on n'est pas dans une coupure complète avec cette période, on n'est pas dans quelque chose d'abstrait et qui ne nous servirait plus, entre guillemets, qui ne nous serait plus utile.
Auparavant, les visites étaient faites par d'anciens résistants. Leur témoignage permettait de faire un lien fort entre le passé et le présent, mais récemment, le dernier résistant qui a connu donc, votre bondu est décédé. Donc, quelle forme de médiation avez-vous mise en place pour maintenir ce lien avec un vécu passé et comment vous y êtes-vous pris pour que les visiteurs se sentent concernés par l'histoire de ce fort sans médiateur direct?
Alors depuis les années 2000, il y avait eu une campagne en fait de recueil de témoignages d'anciens résistants déportés, plus généralement témoins de cette période, qu'on exploite régulièrement en faisant des montages de ces témoignages, notamment lors des expositions par exemple, hein, en soutien au thème de l'exposition. Les gens peuvent voir visionner ces petits montages. Il y a eu une recherche effectuée par les laboratoires de Lille 3 et de l'Université de Valenciennes récemment. Deux dernières années, pour justement essayer d'étudier la médiation la plus efficace pour rapprocher, donner cet aspect concret à la visite guidée, à la médiation. Et les conclusions qui en avaient été tirées, c'est que finalement, ce type de montage, ce genre de témoignage pris un petit peu à froid, je dirais, au domicile du résistant, au domicile du déporté, ça n'apportait pas du tout la même interaction avec le visiteur qu'un témoignage en direct, ce qui est un peu évident hein, quand on le dit comme ça. Mais tout l'enjeu de cette recherche, c'était de savoir comment contourner ce problème-là et comment avoir une médiation qui puisse exploiter les témoignages sous autre forme. Et ce qui a été choisi, justement, c'est une expérience qui a été menée, c'est de recueillir un témoignage dans les lieux mêmes, donc dans le musée, dans les salles d'exposition. Un témoignage sur des éléments très très spécifiques, puisque le résistant qui avait été interviewé à ce moment-là s'appuyait sur les expos, c'est-à-dire sur les objets qui y figurent dans les vitrines ou qui figurent dans l'exposition, dans les salles du musée. Et manipulant ces objets tels qu'il pouvait le faire lorsque ces objets étaient chez lui à domicile. En général, c'était les donateurs hein, qui étaient concernés par cette prise de témoignage, donc donateurs et témoins. Et ça permettait vraiment d'avoir une espèce de résonance, puisque le public qui regarde aujourd'hui ces témoignages vidéo se trouve dans le même espace que le résistant qui a été interviewé, a sous les yeux l'objet qui est manipulé dans la vidéo. Et donc, il y a vraiment un espace-temps, en fait, qui est confondu, hein, quelque part. On a l'impression d'avoir la personne devant soi, sous les yeux, et ça l'incarne beaucoup plus. Hein. Très clairement, on est presque en direct avec ce résistant, même si, en l'occurrence, là, cette expérience avait été menée avec ce monsieur que vous évoquiez tout à l'heure, qui était le dernier témoin encore vivant aujourd'hui à intervenir au musée, Monsieur Détombe.
Vous avez évoqué des expositions tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors, nous, c'est aussi une dynamique qui est importante. C'est un enjeu pour nous de faire vivre le musée en renouvelant constamment les expositions qui sont proposées. Donc, on propose systématiquement deux types d'expos différentes dans l'année. Une exposition qui a lieu, je dirais, de décembre jusqu'à avril, qui est chaque année calquée sur le thème, en fait, du concours national de la résistance et de la déportation, qui est un concours qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens en particulier. Et cette année, ce thème, ça n'est pas le thème le plus joyeux qui soit, mais voilà, c'est adapté à cette période, c'est la négation de l'humain dans le système concentrationnaire nazi. Donc c'est un thème particulièrement difficile, assez dur à traiter. Donc justement, ce recueil de témoignages, il a été important pour ce thème. Les petits montages que l'on effectue en soutien aux expos, ils sont assez importants pour ce thème-là, pour redonner de la chair justement à l'exposition pour bien montrer qu'il s'agit d'expériences concrètes derrière ce qui est dit de cette déshumanisation, cette tentative du moins de déshumanisation, parce que ce qu'on a voulu montrer par l'expo, c'est aussi le fait qu'il y a une résistance face à ce mécanisme de négation de l'humain. Et puis, on a chaque année une ou deux autres expositions sur des thèmes différents. Par exemple, là, dernièrement, s'est achevée une expo plutôt centrée sur les résistants de la Première Guerre mondiale. Puisque, comme je le disais, notre vocation, c'est aussi de montrer les spécificités de la région Nord-Pas-de-Calais. Et une de ces spécificités, c'est qu'on a été occupé non pas une fois, mais deux fois par les troupes allemandes, en 14-18 également, avec déjà la naissance de formes de résistance. Donc, on a voulu remettre à l'honneur ces formes de résistance cette année.
Donc à présent, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter le chant des partisans interprété par Jean Ferrat. Nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau. Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
C'était le chant des partisans de Jean Ferrat. Et nous retrouvons Colline et Manon, ainsi que leur invitée Hélène Priego, directrice et médiatrice du musée de la Résistance de Bondu.
Nous allons à présent en parler des publics et des transmissions de mémoire et d'histoire envers ces publics. Est-ce que vous pouvez nous parler des visiteurs? Est-ce qu'ils sont réguliers ou plutôt occasionnels? Et d'où viennent-ils?
Alors, il y a une certaine régularité, même si on a une fréquentation qui n'est pas gigantesque, mais c'est relativement régulier. On a deux types, en fait, de visiteurs, hein, principalement. La moitié de la fréquentation est constituée de scolaires, principalement, donc collégiens, lycéens, et puis primaires, CM1, CM2. Et puis l'autre moitié, ce sont à la fois des groupes adultes et surtout des individuels, donc avec un public plutôt familial, en fait. Pour ma part, j'ai commencé au musée, donc il y a déjà une dizaine d'années, c'était principalement principalement, on va dire, des retraités, des sexagénaires, enfin, voilà. Et ça a pas mal évolué parce que ces dernières années, on retrouve beaucoup de trentenaires, voire beaucoup de jeunes adultes, en fait, au musée. Donc on s'aperçoit que c'est une thématique, justement, peut-être parce que les témoins directs disparaissent, peut-être parce qu'on n'a plus cette proximité dans les familles. C'est une thématique qui va séduire des publics de plus en plus jeunes, en réalité. Donc comment on fait pour s'adresser à eux? C'est assez varié, hein, les techniques de médiation. Nous, ce qu'on propose systématiquement pour les groupes scolaires, c'est pas le parti pris de tous les musées, c'est des visites guidées. Sauf si l'enseignant s'y oppose formellement, mais de base, on préfère la visite guidée, donc on préfère vraiment prendre, entre guillemets, les élèves par la main et puis développer une visite avec eux, parce que souvent c'est assez interactif, hein, ce genre de visite. On peut proposer aussi des ateliers avec les élèves. Et pour les individuels, là, ils ont vraiment le choix entre visite guidée ou visite libre avec les audio guides. Donc ça, c'est une autre possibilité également. On a développé aussi un outil pour les plus jeunes, en fait, pour les enfants, parce que c'est vraiment un public qui a besoin d'un discours très très particulier. D'abord, on traite de termes qui sont un petit peu spécifiques. Qu'est-ce que c'est que l'occupation, qu'est-ce que c'est que le rationnement, la collaboration, etc. Quand on est en CM1, quand on a 7-8 ans ou 9-10 ans, c'est des concepts un peu vagues. Donc on a développé un petit parcours pour eux spécifiquement, avec des petits cartels un peu ludique, qui s'adresse à eux avec des définitions de termes. Et ces cartels viennent en appui d'un livret-jeu où deux enfants de leur âge, Jeanne et Marcel, vivant sous l'occupation, leur demandent en fait de les aider à faire un petit peu de la résistance, à trouver des messages codés, à faire des plans pour un sabotage, etc. Donc ça permet vraiment en même temps de les impliquer complètement dans la visite, de leur donner un petit enjeu. Et on s'est aperçu que ce livret-jeu fonctionnait vraiment très très bien pour le jeune public.
Est-ce que les habitants de la ville se sentent concernés par l'histoire de Bondues ?
Alors ça, c'est vraiment une question intéressante qui ressort, je pense, de la sociologie et de la démographie de Bondues. C'est une ville qui était autrefois un petit village agricole, hein, Bondues, et dont la sociologie a radicalement changé, en fait, dans les années 60. Ce qui signifie que la population qui était là dans les années jusqu'aux années 60 et qui était là sous l'occupation n'est plus la même aujourd'hui, parce que dans les années 60, on a vu arriver le phénomène de urbanisation avec des classes moyennes aisées qui se sont installées à Bondues, en fait, pour fuir les centres-villes, hein, quelque part, et parce qu'il y avait de belles parcelles, parce que c'était justement l'occasion d'avoir, comme le dit le slogan de la ville, une petite ville à la campagne. Donc ce sont des populations assez nouvelles qui n'ont pas forcément le même attachement à l'histoire de la ville et à cette période de la Seconde Guerre mondiale que les anciens agriculteurs bonduois qui ont assisté, par exemple, à l'exhumation des corps au fort de Bondues. Hein, donc là, il y a déjà une petite coupure, et ça se traduit par le fait que finalement, on a relativement peu de bonduois parmi nos visiteurs. Donc pour nous, ça a donné lieu à des efforts quand même considérables, notamment lorsqu'il y a des nouveaux bonduois qui arrivent, ils ont systématiquement un petit package de la part de la ville avec des offres de découverte, et notamment découverte du musée. Et depuis quelques années, ça a tendance à se rééquilibrer un petit peu. On a quand même quelques bonduois qui découvrent le musée de plus en plus, mais ça reste, ça reste quand même portion congrue, hein, par rapport au reste de la métropole lilloise. On a beaucoup plus de Tourquenois. Donc c'est un défi que je lance aux bonduois. Venez nous rendre visite et découvrir votre musée.
Et apparemment, les anglo-saxons sont pas mal intéressés aussi par ce musée quand ils viennent visiter Lille.
Oui, effectivement, les anglo-saxons, c'est un public qui est vraiment très très attaché au tourisme de mémoire, hein. C'est un concept qui est très très fort outre-Manche, et on a vraiment des gens qui vont préparer leur visite de la métropole en amont, voire de la région d'ailleurs, et qui se font un petit parcours, voilà, de la Belgique jusqu'à la Somme, et ils vont baliser comme ça tous les mémoriaux et tous les musées sur les deux guerres mondiales. Donc on figure assez souvent sur leur parcours, et d'ailleurs on voit là aussi l'intérêt du travail de tourisme de réseau avec d'autres musées, d'autres mémoriaux, puisque cette année, par exemple, on a accueilli pas mal d'Australiens, alors qu'il n'y a pas un lien avec l'histoire de l'Australie à Bondues, hein. Il n'y a rien de spécifique dans le fort de Bondues concernant les Australiens, mais ils ont entendu parler du musée de Bondues chez nos partenaires de Fromel, qui est un des grands lieux de mémoire australiens, et ça les a attirés, hein, le fait que ce site ait été mis en avant. Donc c'est vraiment, là aussi, on voit l'impact de ce travail de réseau.
Donc là, on va parler un petit peu de comment vous voyez l'avenir du musée. Donc, est-ce que vous avez quelques projets d'amélioration? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser par la suite?
Alors là, actuellement, au programme du mandat de Monsieur le maire, il y a justement le renouvellement muséographique du musée de Bondu. On est encore en train de définir actuellement ce renouvellement muséographique avec donc l'élu en charge de la culture qui a donc la tutelle du musée, hein, et ma collègue. Et on a pas mal réfléchi à ce qui serait opportun. On va essayer de conquérir de nouvelles salles. On est dans un bâtiment qui n'est pas simple à réhabiliter aussi quelque part. C'est un ancien fort, donc il y a des casemates qui sont encore relativement endommagées. Il faut faire des travaux assez étendus. Et on souhaite notamment changer notre salle d'exposition temporaire qui actuellement est un peu... On est un peu à l'étroit, on se sent un peu frustré. Donc on souhaite pouvoir l'établir dans une nouvelle casemate toute réhabilitée. Et puis finalement, le parcours muséographique, on en est assez satisfaite, donc il va sans doute changer relativement peu. C'est un parcours thématique qui est autour du parcours finalement type du résistant, ses motivations, ses méthodes, son organisation et puis les risques qu'il encourt. Donc ce parcours-là, on souhaite le maintenir, de même que finalement la ligne graphique, l'identité graphique du musée qui repose donc à la fois sur les matériaux de ce bâtiment, la brique, donc c'est vrai que c'est très très présent et on ne veut pas métamorphoser les lieux. Et puis sur une espèce de parcours qui a été créé avec des silhouettes de métal corrodé qui représente cette espèce d'armée des ombres, en fait, qui est composée de la résistance. Et ça aussi, on veut que ça reste l'identité visuelle forte du musée.
Donc vous avez vraiment de nombreux projets d'amélioration. Mais la question, justement, à notre époque, c'est qu'on sait que les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir et que le domaine culturel et historique est loin d'être privilégié. Donc, on voulait savoir un peu les difficultés que vous éprouviez, si vous avez des projets, à comment les réaliser malgré ces difficultés.
Alors, c'est toujours un jeu d'équilibriste, hein, d'autant que le musée de Bondu, contrairement à certains de nos partenaires qui sont des musées départementaux ou métropolitains, c'est un musée qui reste actuellement un musée communal, municipal. Donc, c'est la ville de Bondu qui porte intégralement les finances de ce musée, disons le fonctionnement courant de ce musée, même si on a la chance justement de bénéficier de subventions régulièrement, par exemple du conseil départemental sur des projets bien définis ou sur des investissements matériel, hein, par exemple, mais ce sont des subventions justement pour lesquelles il faut justifier l'utilisation, pour lesquelles il faut monter un dossier. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail, il faut aller chercher ces subventions et il faut aussi les justifier par le travail qui est effectué, montrer que justement la culture elle peut être utile. C'est pas quelque chose de purement décoratif qui peut être la marotte d'une personne, d'un politique, loin de là. C'est indispensable aux formations des jeunes générations. Et l'avantage que l'on a pour démontrer cet impact, c'est qu'on a quand même à notre actif les visites de très nombreux scolaires. Donc c'est vraiment un argument fort justement lorsqu'on recherche ce financement.
Bien, merci Hélène pour avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci, je vous en prie.
Donc, merci à toutes les trois ainsi qu'à tous nos invités et tous nos étudiants d'avoir participé à l'émission Quoi de neuf pour ce petit point culture. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, avec de nouveaux professionnels du milieu de la culture qui seront toujours interviewés par les étudiants en arts et culture de Lille 3. Merci également à vous les auditeurs de nous avoir suivis sur cette émission. On la clôture d'ailleurs avec le morceau Big Jet Plane de Angus et Julia Stone. C'est voilà.
I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. Yeah.
take you higher.